Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Vous allez maintenant entendre l'histoire très forte de Camille, anorexique, qui a pourtant réussi à devenir maman deux fois. Et puis ensuite, le docteur Clément Van Steen, psychiatre et addictologue, nous éclairera sur cette maladie que la grossesse vient bouleverser. C'est vrai que les femmes ne le savent pas toujours, mais leur comportement alimentaire à partir de l'adolescence peut déjà avoir un impact négatif sur la fertilité et la grossesse plus tard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors vous avez 34 ans, vous êtes la maman de Léon qui a 3 ans et d'Auguste qui a 7 mois, tout petit bébé.
Oui.
Vous n'êtes pas trop crevée ?
Une nuit à l'hôtel, c'est bien.
Ah, c'est ça, hein. C'était chouette quand même de venir dans la maison des maternelles en direct pour pouvoir dormir ailleurs. Dès la puberté, pendant une dizaine d'années, vous allez être, Camille, dans un contrôle extrême de votre poids, au point de faire disparaître vos règles. Et ce n'est qu'à 29 ans, au moment où vous avez décidé de fonder une famille, que vous allez prendre conscience qu'en fait, vous souffrez vraiment de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les fameux TCA. Mais on va voir que, bon, vous n'êtes pas non plus ce qu'on peut appeler une anorexique comme on l'imagine. Alors, on remonte un petit peu le temps. À quel moment est-ce que votre rapport à l'alimentation a commencé à être un sujet ? Est-ce que vous vous souvenez ?
Oui, j'ai eu mes règles tardivement, aux alentours de 16 ans, avec le corps qui change à la suite de l'apparition de ces règles. Et un corps que j'ai eu du mal à apprécier, que je voulais être plus mince, vraiment. Donc là, ça a vraiment commencé autour de 16 ans où j'ai fait des recherches, voir comment je pouvais perdre du poids.
Vous étiez fixé un poids, en fait ?
Pas forcément dans un premier temps, mais voilà, l'objectif d'être mince.
C'est ça.
Voilà, sans trop de forme, en tout cas, qui pouvait être synonyme de forme féminine. Mmh. Pendant mes études secondaires, j'ai commencé à vraiment mettre en place un contrôle de mon alimentation, avec une pratique sportive aussi. En parallèle.
Alors, contrôler l'alimentation, ça consistait en quoi au quotidien ?
Je contrôlais évidemment les calories sur les produits qu'on peut acheter. Je mangeais très simplement des choses très, très basiques, souvent les mêmes choses. En tout cas, des haricots verts, du blanc de poulet, du fromage blanc, des choses où je savais qu'ils n'allaient pas forcément, qu'ils ne contenaient pas du gras.
Par exemple, vous disiez avant, vous anticipiez en vous disant, bon, aujourd'hui, je mange à midi des haricots verts avec un blanc de poulet, le soir un œuf dur, vous disiez ça ?
Ah oui, il n'y a pas de place à l'imprévu. Hein. Le petit déjeuner devait être identique, à base de plutôt de fromage blanc, de fruits, de choses sans calories ou peu caloriques.
Comment vous gériez alors le côté social des repas, les restaurants, etc.
C'est le point, en tout cas, compliqué, en effet, l'imprévu. Hein, la semaine, c'était très contrôlé, c'était très, très simple, sans friture, etc. Le week-end, en effet, je me permettais des repas plaisir. Mmh. Et donc, je m'autorisais à aller au restaurant, à manger avec des amis, avec ma famille. Mais tout en étant contrôlé.
Il n'y avait pas un jour de votre vie où, de toute façon, même quand vous parlez des repas plaisir, vous saviez que c'était le contrôle, c'est le repas plaisir,
oui.
C'est maintenant, ça ne sera pas demain, etc.
Exactement.
Donc votre vie, elle était jalonnée, en fait, de ces obsessions et ce contrôle. Est-ce que votre entourage s'en rendait compte ?
Non, pas forcément. Enfin, j'ai rencontré mon mari jeune, on avait tous les deux il pratiquait du sport, il mangeait plutôt bien, on s'est installés ensemble, il voyait pas forcément qu'il y avait un
Vous
problème.
Vous n'étiez pas maigre ?
Non, je devais peser 47 kilos pour 1m58, c'était pas inquiétant, en tout cas, ça se voyait pas. J'ai appris il y a peu de temps que ma sœur avait confié à ma mère qu'en effet, elle se doutait qu'il y avait un problème, mais je savais... Je savais enrober les choses, je faisais en sorte que ça ne se voit pas. J'étais consciente au fond de moi que je contrôlais. Forcément,
je le savais.
Après, c'était mon petit truc à moi, c'était mon contrôle.
Alors, bien sûr, quand on se prive d'aliments, le corps réagit. Vous avez commencé à avoir des conséquences de tout ça.
Oui, d'abord des intolérances alimentaires, où quand on mange que des haricots verts, le jour où on mange un bout de gras, c'est une cata, le corps ne s'en remet pas, donc je ne pouvais plus manger gras. Dans la famille, il y a aussi un problème génétique qui fait que On doit être suivi, ma sœur et moi, par une gastro-entérologue qui, à l'époque, me prescrit un régime alimentaire. Donc,
ça vous arrange, ça, à fond?
Voilà, exactement. Je me cache complètement dessus. Je peux pas manger de gluten. Enfin, il y a plein d'aliments à éviter. C'est du pain béni, clairement. C'est du pain béni pour moi. Je suis fatiguée. Du coup, j'ai pas d'énergie. Hein. Voilà, je suis fatiguée. En plus, je fais quand même beaucoup de sport. Parfois, à jeun le matin. Donc, forcément, j'ai des sauts d'humeur, voilà. Et quand j'arrête ma pilule, je me rends compte que j'ai plus mes règles et qu'elles ne reviennent pas.
Donc ça, quand même, ça fait plusieurs choses. Intolérance alimentaire, vous pouvez plus manger de gras sans être malade comme un chien.
Ouais.
Vous êtes crevé, parfois vous pleurez pour rien dans la journée.
Ouais.
Vous êtes extrêmement fatigué et vous n'avez plus vos règles.
Ouais.
À 29 ans, vous allez demander votre compagnon en mariage.
Oui.
Trop chouette. Vous voulez fonder une famille, mais donc vous n'avez plus vos règles. Alors là, qu'est-ce que vous vous dites?
C'est ça. Donc là, on décide de consulter un gynéco spécialisé. On fait toute la batterie d'examens qui est de rigueur hein, dans ces cas-là. Et les résultats sont très bons. J'ai même une très bonne réserve ovarienne. Tout va très bien. Et on m'indique que c'est clairement dans ma tête. Puis il y a sûrement un blocage.
Ils ne pensent pas à un problème alimentaire, vu qu'encore une fois, on ne se dit pas, tiens, elle est maigrissime.
C'est ça.
Donc, lui, n'y pense pas.
En fait, la restriction n'est pas transmise au médecin. Donc, elle ne le voit pas. Le contrôle, elle ne le voit pas.
Et puis, votre IMC est tout à fait normal.
Donc,
alors, en 2019, vous allez entreprendre un parcours PMA.
Oui.
L'idée de prendre du poids pendant la grossesse, comment est-ce que vous l'appréhendiez?
En fait, le parcours PMA, je me suis d'abord concentrée sur le parcours PMA. Avec comme objectif principal d'être enceinte. Et j'avais peur de la maternité depuis un moment parce que forcément, je savais que ça allait me faire perdre la possibilité de contrôler.
Mmh. Oui, donc quand même, vous appréhendiez.
Oui.
Vous êtes tombée enceinte au bout de 2 mois de traitement. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous êtes très heureuse. Vous continuez le sport. Vous commencez à lâcher prise sur les repas. Et puis, lors de votre contrôle du 6e mois de grossesse, il y a une annonce qui va provoquer un véritable déclic chez vous. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On me dit que mon bébé est trop petit. Et là, vraiment, c'est super dur, c'est bouleversant, parce que forcément, je ne peux que penser à ma responsabilité de maman et de future maman, où je me dis peut-être que mes comportements, mes restrictions, mes comportements alimentaires font que ce bébé est trop petit, quoi. Donc là, je prends conscience qu'il va falloir qu'il y a quelque chose, en tout cas.
Il y a quelque chose. C'est la première fois que vous vous dites, tiens...
Oui.
Il y a peut-être quelque chose. Et après, en 2020, vous avez commencé un poste de DRH. Vous étiez après votre congé maternité. Et vous êtes toujours dans le contrôle alimentaire à ce moment-là où vous vous êtes dit, bon, j'ai un problème, je vais lâcher un petit peu.
Non, je n'ai plus la même envie, mais j'ai quand même envie de reperdre mes kilos de grossesse. Ouais. Donc, je contrôle quand même mon alimentation, je refais du sport. Et puis, finalement, mes vieux démons reviennent assez vite. C'est assez compliqué. Je suis fatiguée, hein, forcément, une vie pro, une vie de maman, contrôle, sport, ça fait beaucoup de choses.
Vous avez vu une vidéo sur les TCA, c'est ça qui vous a fait prendre conscience de tout?
C'est ça, par hasard, je tombe sur une vidéo qui parlait justement que des restrictions pouvaient engendrer une aménorrhée hypothalamique.
Aménorrhée, donc absence de règles.
C'est ça, et là je comprends. Je comprends que c'est moi et que vraiment il va falloir que je fasse quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour aller mieux?
J'ai jeté ma balance, c'était celle qui me dictait mes journées. Au début de mes vacances, j'ai décidé de manger de façon libérée, en tout cas d'essayer de manger de façon libérée et de ne plus pratiquer de sport du tout.
Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation tout à coup de vous dire, tiens, il y a un restaurant, je ne l'évite pas, j'y vais? Je choisis ce que je veux sur la carte.
C'est bouleversant parce que c'est plein de... Forcément, j'étais comme une enfant à Noël. Hein. Je choisissais vraiment ce que je voulais. Et en même temps, ce n'est pas si simple. Du jour au lendemain, on ne switche pas d'un point A à un point B. Donc, y a des fois des choses qui reviennent après. Mais globalement, un sentiment de liberté.
Un vrai sentiment de plaisir quand même.
Oui,
parce que dans tout ce que vous racontez, ce qui manque cruellement, c'est la notion de plaisir.
Oui, tout à fait. Ouais.
Hein, on sent que ce contrôle, c'était difficile à vivre pour vous quand même, au quotidien. Et puis après, vos efforts vont être récompensés assez vite, finalement.
Oui, 2 mois après ce lâcher-prise, je retrouve mes règles.
C'est porteur d'espoir, ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'en 2 mois, ça peut quand même revenir.
Oui, c'est fabuleux. Moi, je dis toujours que mon corps est fabuleux et que les corps sont fabuleux. Donc, je retrouve mes règles. Là, c'est forcément une joie intense. Et je me dis vraiment, je suis sur la bonne voie.
Et vous retombez enceinte naturellement.
C'est ça.
Un bonheur en n'arrivant jamais seule.
Exactement, c'est ça. Je tombe enceinte d'Auguste 2 mois après.
Et comment vous allez aujourd'hui alors, Camille ?
Je vais très bien. La boucle est bouclée. Ma première grossesse m'a vraiment fait prendre conscience de mes troubles du comportement alimentaire. Ma deuxième m'aura vraiment permis de guérir. Je suis en transition professionnelle aujourd'hui pour accompagner les personnes qui souffrent de surcontrôle à reprendre une vie libérée pour gagner justement en bonheur dans leur vie. Et plus largement, c'est important pour moi de pouvoir témoigner parce que je pense qu'on met beaucoup de cases sur les TCA et que finalement, ça peut être plus vicieux. Et à travers des témoignages, on sort aussi de l'isolement. On se dit qu'il y a des gens qui sont comme nous.
Nous accueillons le docteur Clément Van Steen. Bonjour docteur, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychiatre, addictologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous êtes auteur de « Les troubles du comportement alimentaire ». C'est sorti chez Ellipse. Vous voyez la couverture en ce moment sur votre écran. Alors, on l'a vu, Camille a pris conscience qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire pendant ses deux grossesses ou grâce à ses deux grossesses. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que son indice de masse corporelle, donc son IMC, n'est pas du tout alarmant. Il n'y a pas un médecin qui se dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a forcément un lien, je pensais ne jamais poser cette question, entre poids et anorexie ?
Alors, je vais vous répondre oui et non. C'est-à-dire que si on se base sur les critères officiels de l'anorexie mentale, l'insuffisance pondérale au regard de ce qui est attendu dans la norme, c'est le critère diagnostique essentiel. Après, entendons-nous bien, là, les problèmes en lien avec la fertilité, la régularité du cycle, ça va être un marqueur de dénutrition. Et les premiers signes peuvent être des signes qui apparaissent à un indice de masse corporelle normale. C'est autre
chose. Donc l'aménorrhée, par exemple, ça fait partie de ces indices que vous évoquez.
C'est même l'un des plus sensibles chez la femme.
C'est fou quand même, parce que la nature se met en protection, en fait. On se dit, si on peut l'expliquer, c'est se dire, elle n'est pas capable physiquement, parce qu'elle est dénutrie, de faire un enfant, c'est ça ?
C'est exactement ça. En réalité, quand il y a une dénutrition, pour des causes X ou Y, l'anorexie en fait partie, mais ce n'est pas la seule, l'organisme va se mettre en état d'hibernation. Donc vous avez tas de réactions d'adaptation dont font partie l'aménorrhée.
Alors, Irène vous demande, la grossesse peut-elle favoriser la guérison quand on souffre d'anorexie depuis des années ?
Alors, là aussi, c'est oui et non.
Ça ne marche pas à tous les coups.
Ça ne marche pas à tous les coups. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est que la grossesse, elle a globalement un impact positif sur l'anorexie mentale. Les patientes qui ont eu une grossesse ont une maladie dont la sévérité est globalement moindre et dont la durée est globalement moindre, si vous voulez. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est que pendant la grossesse, il y a quand même une phase de rémission un peu partielle des symptômes, parce qu'on est deux dans le même bateau, et que là, au niveau de la motivation, ça va jouer très fort, si vous voulez. Ouais. Ensuite, si on prend le problème de l'autre côté, vous avez des patientes qui ont un antécédent de troubles du comportement alimentaire, notamment d'anorexie, qui vont voir ressurgir des symptômes au cours de la grossesse, parce que la grossesse, c'est quand même un truc assez compliqué en termes de changement corporel et de bouleversement psychique.
Pauline vous demande, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, quels sont les risques pour la femme enceinte et le bébé à naître et comment les éviter du coup ?
Alors, ça dépend du type de trouble du comportement alimentaire, en réalité. Dans l'anorexie mentale restrictive, on considère qu'il y a un risque de prématurité et de retard de croissance in utero, qui est un peu ce qu'évoquait le témoignage d'avant. Dans la boulimie nerveuse, il y a plutôt un risque de complications obstétricales et de fragilité du bébé dans les mois qui suivent. Et vous avez le dernier trouble du comportement alimentaire qui est le plus fréquent, qui est quand même ce qu'on appelle le binge eating disorder ou l'hyperphagie boulimique, où là, vous avez un risque de complications vraiment de la grossesse, telles que le diabète gestationnel et les difficultés à l'accouchement avec des césariennes qui sont difficiles à opérer.
D'accord. Pardon, la différence entre ces deux boulimies ?
Alors, la boulimie nerveuse, c'est quand vous avez des conduites compensatoires qui sont associées, telles que les vomissements, les prises de laxatifs, l'hyperactivité physique, avec un indice de masse corporelle qui est normal. Et dans l'hyperphagie boulimique, l'indice de masse corporelle est plutôt élevé. Okay.
L'après-grossesse, Margot vous dit « Maman d'une petite fille de 4 mois, je suis atteinte d'anorexie mentale depuis plus de 10 ans, je voulais savoir si mes TCA pourraient avoir des conséquences sur ma fille ».
Alors ça, c'est une question que se posent toutes les patientes quand elles sont dans une démarche de grossesse ou quand elles sont enceintes ou quand elles ont un enfant en bas âge. La crainte de la contamination, entre guillemets.
De la transmission.
Donc, il y a des facteurs génétiques, on les a un peu identifiés, mais c'est très difficile de les chiffrer. c'est un débat qui est encore assez houleux. On sait aussi qu'il y a des facteurs éducationnels sur le plan alimentaire et nutritionnel qui vont jouer. Et il n'y a pas de contamination observée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines phases du développement de l'enfant qui sont un peu plus compliquées à gérer pour les mamans qui ont un antécédent de trouble du comportement alimentaire ou un trouble du comportement alimentaire actif. Au tout début, ça va, puisque qu'on soit en allaitement maternel ou artificiel, on a des repères qui sont très bien fixés sur l'alimentation de l'enfant. Par contre, au moment de la diversification alimentaire, là, les mères vont être renvoyées à leurs propres repères, que ce soit en termes de quantité ou de qualité de l'alimentation. Et c'est un moment qui est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est pas mal d'être accompagné par un médecin généraliste ou un pédiatre ou un diététicien nutritionniste qui nous connaît et qui connaît nos difficultés pour pas être dans un truc en mode culpabilisateur au moment de la diversification alimentaire si la courbe de poids commence à un peu bouger, si vous voulez. De pouvoir s'exprimer sans culpabilité et être guidé dans ce cadre-là.
Du coup, Nina nous envoie « Je suis enceinte de un mois, ancienne anorexique, j'ai une peur bleue de ma grossesse. Existe-t-il des groupes de parole de femmes ?» sur le sujet. On va déjà féliciter Nina.
Félicitations Nina. Oui, il existe des groupes de parole de femmes qui se consacrent à la grossesse et puis au fait d'être jeune maman. Alors moi, j'exerce à Paris, donc j'en connais un à Paris, qui est situé à la MGEN rue Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Il s'appelle le groupe Premier Pas, il s'appelait avant le groupe Poussette. Et la seule condition pour y accéder, c'est d'avoir un suivi individuel mis en place par un psychiatre ou un psychologue, et ce sont des groupes de jeunes mamans et de femmes enceintes.
D'accord, et si elle n'a pas tout ça, qu'elle commence par aller voir son médecin généraliste et lui en parler dès aujourd'hui, évidemment.
Alors, oui, et je dirais même, allez voir le professionnel qui vous connaît dans le cadre du trouble du comportement alimentaire. S'il a débuté à l'adolescence et que vous avez vu un ou une psychologue ou psychiatre à ce moment-là, c'est là qu'il faut aller. Pourquoi ? Mais parce que justement, il y a cette connaissance des difficultés antérieures, on n'a pas à tout redépaler avec un peu de culpabilité, etc., etc.
Marine vous dit, alors que je pensais être sortie de l'anorexie depuis plus de 20 ans, ma première grossesse a fait revenir mes vieux démons. Est-ce que c'est courant et comment agir ?
Alors, c'est courant, oui, parce que c'est 30% des femmes qui découvrent cette réactivation des choses. Il faut bien distinguer le premier trimestre de grossesse des autres. Pourquoi ? Parce qu'au premier trimestre, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a tout un tas de signes qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse, qui ne sont pas tant que ça, notamment les nausées et les vomissements, qui là vont venir s'intriquer avec les difficultés alimentaires. Et donc, on ne sait pas trop ce qui est de l'ordre de la réactivation du trouble du comportement alimentaire et ce qui est de l'ordre des symptômes de grossesse. L'idéal, c'est d'être accompagné sur cette période-là, idem par le professionnel qu'on connaît déjà, si on a. Et c'est vraiment diététicien, psychologue et médecin généraliste, c'est le meilleur.
Bon trio. Karine nous dit « Ma fille de 20 ans contrôle chaque calorie de ses repas, elle fait beaucoup de sport et surtout elle n'a plus ses règles. Est-ce de l'anorexie et comment l'aider ?»
C'est le témoignage de Camille, ça, quand même.
Il y a beaucoup de similarités, effectivement. Ouais. Alors, moi, je ne fais pas de diagnostic télévisuel à distance, mais effectivement, c'est un symptôme qui semble être un marqueur d'un état nutritionnel qui commence à être évocateur d'une restriction alimentaire.
Merci au docteur Clément Van Steen, merci aussi à Camille, bien sûr. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et mettez-nous des étoiles.